Vincent Favier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Ecoslop. On va parler avec vous de vos dernières actualités et de la publication de vos résultats. Qu'est-ce que vous retenez-vous des premiers mois avant de rentrer dans le détail, des derniers mois, je vais le refaire proprement. Je vais refaire bien. Pardon. Vincent Favier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Ecoslop. On va revenir avec vous sur la publication de vos résultats semestriels. Qu'est-ce que vous retenez des derniers mois pour Ecoslop?
Alors écoutez, le premier semestre, ça a été un semestre très intéressant puisqu'on est sorti de la crise de l'année dernière et on a récupéré nos niveaux d'activité de 2019 assez rapidement et en fait essentiellement au deuxième trimestre. Et donc c'était pour nous une étape importante parce que dans l'incertitude générale, on se demandait comme tout le monde si on allait revenir très rassuré de ce point de vue-là.
Justement, on parle avec vous de clean tech, hein, de recyclage effectivement, de produits pétroliers. On va parler un certain nombre d'unités avec vous. Où en sont justement les développements, que ce soit en France, notamment à Marseille, et puis à l'étranger également?
Alors, à Marseille, donc on a annoncé l'inauguration officielle de notre usine le 2 juillet. Donc, on a livré l'usine le 2 juillet en présence de Patrick Pouyanné, donc le PDG de Total Energy, puisque Total Energy a 25% de l'usine et Ecoslop en a 75%. On est actuellement donc en phase de démarrage, de réglage, de qualification des produits, mais on a passé une étape importante puisque après 2 ans de chantier et de construction, on a livré l'usine et on a commencé à produire plusieurs centaines de tonnes. Donc pour nous, c'est une deuxième usine après l'usine du Portugal. On double notre capacité européenne, on va doubler notre capacité aussi à produire du chiffre d'affaires. Et au premier semestre, on a aussi annoncé la vente de la première Scarabox, dont on va peut-être reparler, qui est une unité mobile pour les pays émergents à destination du Cameroun. Et on est en train de la construire.
Oui, justement, c'est effectivement c'est une nouvelle, enfin pas une nouvelle stratégie, mais effectivement une stratégie qui est en train de bouger. C'est-à-dire, il y a ce que vous avez fait, les constructions que vous venez de mentionner, et puis l'idée aussi de pouvoir aller peut-être plus vite avec Scarabox. Qu'est-ce qu'on trouve et quels vont être les pays justement principalement potentiellement intéressés?
Alors, notre métier à l'origine, effectivement, c'était de concevoir, de construire et d'exploiter nos propres usines, parce que c'est ce qu'on fait au Portugal et c'est ce qu'on fait à Marseille. Mais on a été contacté par de très nombreux prospects ou pays qui nous demandaient d'avoir une unité plus petite pour des besoins plus petits, pour des gisements de déchets locaux plus petits. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la Scarabox. Donc, on a développé, on a miniaturisé notre savoir-faire dans 3 containers de 40 pieds. Qui sont fabriqués et complètement équipés en France et qui sont ensuite expédiés et installés au plus près des gisements de déchets. Donc là, on parle de pays émergents, des pays qui n'ont pas la possibilité d'avoir des usines comme les usines européennes qu'on a construites, parce que les gisements de déchets sont trop petits, mais qui ont les mêmes problèmes de pollution. Et là, en plus, ils ont un énorme problème que nous, on n'a plus en Europe, c'est la gestion des huiles de vidange automobiles. En Europe, c'est réglementé, c'est fléché, c'est régénéré, recyclé. Dans tous ces pays émergents, c'est absolument pas géré et donc il n'y a pas d'outils industriels pour recycler les huiles de vidange usagées. Donc on a développé une deuxième activité. Dans ce cas-là, on est équipementier, on est apporteur de solutions, on fait l'assistance, on fabrique et on vend l'équipement et l'assistance technique derrière avec toute la formation, mais on n'est plus l'exploitant de ces unités.
Derrière, ça pourra générer potentiellement des services liés à la maintenance ou à ce genre de sujet, par exemple.
Ouais, donc de la du de la de la maintenance, les cycles de maintenance, effectivement, l'assistance technique, parce que tous les ans, donc on a une licence qui va être payée, et puis des modifications, des améliorations qu'on peut proposer au fil des années aux clients, un peu comme avec avec les équipements qu'on achète et qui sont upgradés de temps en temps. Voilà, et donc les marchés qu'on vise avec cette Scarabox sont les pays émergents. Nos premiers contacts très naturellement sont faits en Afrique de l'Ouest. Donc on parle du Cameroun avec qui on a signé le premier contrat, mais on parle aussi du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Maroc avec qui on discute de façon très active. Et on a d'autres touches du côté du Middle East ou de façon assez surprenante dans des pays beaucoup plus développés. Je pense à l'Arabie Saoudite, aux Émirats arabes. Il n'y a finalement pas non plus de solution pérenne de recyclage de ces huiles de vidange. Elles sont réexportées Elles sont donc on se débarrasse du problème et ces pays ont la volonté de les recycler sur place. Donc, quand on parle de pays émergents, c'est pas forcément que des pays émergents. Il y a aussi des pays développés, mais dans des on peut accéder à des marchés intéressants avec cette Scarabox.
Alors, il y a un certain nombre de projets que vous avez évoqués dans votre communication, donc, notamment celui avec le port de Singapour. Là, on est sur une autre dimension, hein. Singapour, c'est un port géant. Quel pourrait être justement le futur pour Ecoscope à ce niveau-là?
On part du principe qu'on a quand même si on est une société jeune, on a fait nos preuves parce qu'au Portugal, on a 6 ans d'expérience, on a traité plus de 120 000 tonnes et on est rentable depuis 4 ans. On a développé ce partenariat avec Total qui est un signe de crédibilité et de maturité. Et donc aujourd'hui, notre stratégie, ce serait plutôt effectivement d'aller à Singapour, qui est le premier port pour le bunkering, donc l'alimentation des bateaux en carburant. C'est le deuxième port mondial, mais c'est le premier port mondial pour le bunkering. Et c'est aussi le premier port pour le déchargement des résidus qui nous intéressent. Le port de Singapour, à lui tout seul, réceptionne autant de résidus qu'on appelle slop ou sludge que l'ensemble des ports européens. Donc ça vous donne une idée un peu de la taille du marché. En Europe, c'est disséminé dans un certain nombre, dans une trentaine, dans une quarantaine de ports de taille moyenne ou grande, mais c'est absolument pas centralisé, alors qu'à Singapour, on pourrait avoir la possibilité de mettre la main sur beaucoup plus de stops à un seul endroit. Et donc, on parle d'une installation qui ferait 3 fois la taille de celle de Marseille ou de Sinès, on parle de 90 000 tonnes. Et encore, c'est probablement que la moitié du marché potentiel. Et on parle là-bas aussi d'un partenariat avec. Là, on discute sur ce projet avec un partenaire mondial, mais qui est très implanté localement, qui est intéressé pour nous accompagner dans ce projet.
Du côté effectivement de la situation financière, alors la stratégie qu'on vient d'évoquer ensemble, ça permettrait aussi de peut-être d'avoir moins besoin j'irais de fonds pour développer ces projets. C'est aussi une des idées que vous mettez en avant.
Oui, les 2 premières usines nous ont coûté 20 millions d'euros, donc une grande partie en fonds propres pour la première partie, quasiment 80% de fonds propres pour l'usine du Portugal, 40% de fonds propres pour l'usine de Marseille. Donc c'est des montants importants. La Scarabox, elle a l'avantage effectivement de générer des ventes rentables rapidement et pas d'immobiliser de cash. Et le projet de Singapour, vu la taille de ce projet qui dépasse largement la taille des projets précédents, on le ferait aussi dans une pas forcément dans une perspective d'être à 100%. On serait associé avec un partenaire beaucoup plus puissant que nous. Et donc on essaiera de minimiser le besoin en CapEx et en cash nécessaire pour Ecoslot. Et passer de plus en plus sur justement de la licence, du management fee, de l'assistance technique et de la vente de notre savoir-faire.
Pour terminer, comment se présentent les perspectives des Coslop?
Écoutez, sur le deuxième semestre, on attend un deuxième semestre en consolidé qui soit donc positif en termes d'EBITDA, donc revenir sur des niveaux qu'on a connus en 2019 en termes de rentabilité. Et on attend donc un doublement du chiffre d'affaires sur l'année, essentiellement donc lié à la vente du Scarabox et à la reprise de l'usine de l'activité au Portugal et au décollage pardon, graduel de l'usine de Marseille qui va contribuer aussi de façon moins significative dans le chiffre d'affaires, mais beaucoup plus l'année prochaine.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Vincent Favier. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Ecoslop.
Je vous remercie.